48 FM.
Les Slick John au couloir numéro 2. Allez, les Slick, c'est parti pour les Slick John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du Pepsi Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du Pepsi Apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 74e Instant Sport avec nos reporters qui étaient à Clermont-Ferrand pour aller voler la coupe durement gagnée par le MVL. Salut Patrick, salut Laurent, un match haletant.
Salut à toutes et à tous, salut à toi Ludo, et c'est vrai qu'on a, on est passé par toutes les émotions hein Laurent. On y a cru un peu moins, après on y a recru, et puis bon, après un peu moins, et puis finalement ça a bien tourné.
Ouais, bonjour tout le monde, en effet beaucoup de stress, et puis finalement il y a la délivrance à la fin, donc c'est le principal, en coupe il faut gagner.
Voilà, on va bien sûr en reparler dans cette émission. On va parler aussi un peu de toute cette journée, hein, comment ça s'est passé, parce qu'en off, vous en parlez beaucoup, donc on va le dire à l'antenne, nous raconter un peu ce que vous avez vu.
Parce qu'on est obligé de tout dire.
Non, pas tout.
Pas tout, heureusement.
La partie sur la Française des Jeux, on n'en parle pas, parce que ça fait de la pub, on n'a pas le droit. Julien, lui, n'a pas pu se rendre à cette finale de Coupe de France, car tout est rentré dans l'ordre. Il a retrouvé son poste de remplaçant en équipe 2 de l'AFL. Salut, Julien.
Bah oui, hein, faut bien reprendre les bonnes habitudes. Bonjour à toutes et à tous. Mais je tiens à préciser quand même que c'est pas parce que j'ai retrouvé mon poste de remplaçant en équipe 2 que j'ai pas pu aller à Clermont.
Ah.
Mais bien parce que j'avais match avec mes U13.
Ah.
Gagné.
Victoire.
4-1.
Ouais. Parce qu'avec l'équipe 2, non, pas.
C'était un peu moins rigolo. Ouais.
On va en parler aussi. Et notre ami Aurélien, qu'a-t-il fait de son week-end?
Bonjour à tous. Et bien, petit week-end tranquille pour ma part. Je regarde aussi le match de volley devant mon ordinateur. Avec en fond le match de rugby Italie-France, donc j'avais les deux écrans pour pouvoir en parler aujourd'hui de tout ça.
Bien, on va en parler aussi de ce tournoi Destination, faire un peu le point sur cette équipe de France, savoir qu'est-ce qu'on peut tirer de ce tournoi-là. Mais avant de commencer cette émission, j'aimerais rendre hommage à notre Madame Irma de l'émission, c'est-à-dire Laurent. Alors nous avons fait la semaine dernière des pronostics pour Barcelone-Paris. Laurent avait misé sur un 2-0 pour Barcelone, puis deux jours avant le match...
Non, j'ai misé sur un 3-0 pour Barcelone.
Un 3-0, peu importe, c'était pas bon. deux jours avant le match, il m'a envoyé un message pour rectifier son pronostic. Bon, ça n'aurait pas été pris en compte parce qu'on n'a pas le droit de rectifier, mais en me disant « j'ai une intuition, Barcelone va gagner 6-0 ». Donc le résultat n'est toujours pas là, il y a toujours un but d'écart, mais à ce moment-là, il faut noter quand même que personne ne misait sur une victoire aussi large de Barcelone. Donc Laurent, je tenais à te rendre hommage. On va voir pour Monaco le pronostic. Peut-être que tu vas empocher un point.
C'est dommage que tu dises pas à l'antenne ce que tu m'as répondu à mon message.
Oui, j'ai dit j'ai une intuition, tu dis de la merde.
Voilà. Il fallait le dire.
Voilà, il faut le dire, t'as raison. Allez, on ouvre cet instant sport, bien entendu, avec la victoire du MVL en Coupe de France face à Conflans dans un match serré jusqu'au bout, jusqu'à cette victoire dans le tie-break 3-7-2. Donc, vous qui êtes au match, donc tu en as un peu parlé là Patrick en te disant que t'y croyais plus, match vraiment palpitant.
Oui, un match palpitant. Alors au niveau du jeu, on a vu, bon, par exemple le match contre Avignon était au niveau de la qualité pour moi largement supérieur à ce qu'on a vu dans cette finale, mais par contre bien évidemment au niveau émotionnel, on a vécu un moment, bon, pour nous qui aimons le sport, on a vécu un moment inoubliable. C'est vrai que on en reparlera dans 10, 20 ou 30 ans. On se souviendra de ce match et de cette victoire forcément. Il y a tout eu dans ce match. Une équipe de 1-2 qui a su énormément monter son niveau de jeu.
Elle avait que le nom de N2 parce que c'était vraiment très très fort.
C'est vrai parce que tu fais bien de le dire. J'avais regardé dans mes archives juste avant d'aller à Clermont, et donc en 2014 on a joué contre cette équipe de Clermont,
de Conflans,
en championnat élite, et donc il y avait déjà 4 joueurs qui ont fait cette finale, donc en particulier ce Marc Vautier, le pointu qui a été totalement exceptionnel. Il y avait aussi le central anglais Robertson, le passeur serbe Balanzi, et l'autre central qui a mis dans le quatrième set une série de 3-4 contre d'affilée qui nous a fait énormément mal, qui s'appelle Vézien. Donc 4 joueurs qui étaient déjà là en élite il y a plus de 2 ans. Donc comme on voit qu'il y a quand même une bonne base de joueurs dans cette équipe de la banlieue parisienne.
Plus tous les joueurs recalés du Paris volley. Donc ça fait une très belle équipe.
Alors on a commencé un peu en dedans, il faut le reconnaître, dans cette immense salle. Alors c'était bien sûr pour les deux équipes, mais bon, j'étais un peu bluffé par cette salle. Je ne m'attendais pas à avoir un palais des sports, une maison des sports aussi grande et aussi bien organisée. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Il y avait en plus cet énorme écran accroché au plafond, un peu comme dans les salles NBA. Donc une ambiance, c'est vrai, avec un speaker qui a su mettre l'ambiance des deux côtés pour les deux publics. Donc on a vu notre équipe un peu en dedans et ça a expliqué la perte de ce premier set.
Toutes les choses étaient bien faites puisque tu parlais d'émotion. C'est vrai que toute la salle s'est levée parce qu'il y a eu quand même la Marseillaise. C'est quelque chose quand même très fort à vivre.
C'est vrai.
Donc j'imagine que les joueurs au milieu, ça doit les déstabiliser. Donc c'est pour les deux équipes évidemment. Mais ça met tout de suite l'ambiance des grands jours. C'était quelque chose à vivre, je trouve.
Non mais on ne s'y attendait pas, effectivement, tu viens de le dire. Donc les joueurs sont entrés par un tunnel, comme dans les grandes salles et pour les finales fortes de basket ou de volley. Donc chaque joueur était appelé, pas de pom-pom girl, mais il y avait d'autres animations à côté.
Animatrice.
animatrice à côté. Et donc un par un, à l'appel du nom, pénétré sur le terrain.
Je pense que déjà ces animatrices ont pas mal perturbé les joueurs aussi, je trouve.
Et donc après, une fois que les joueurs étaient alignés, le speaker a demandé au public de se lever. Et donc c'est vrai qu'un retentiste marseillaise qui a mis quand même, c'est vrai, une bonne dose d'émotion et repris en cœur par quasiment l'intégralité du public, ça a envoyé pas mal. Et bon, ça a ajouté une dimension supplémentaire à cet avant-match.
Il y avait du monde qui est arrivé déjà pour ce
match. Ouais, il y avait du monde. Il y avait deux quarts complets du côté lausérien.
Plus
ceux qui étaient montés en voiture. Conflans un peu moins. Ça s'explique aussi par la longueur du voyage. Ils étaient partis à 5h du matin, puisqu'on a pu bien sûr dialoguer avec les supporters de Conflans. Ils avaient pris la route dès 5h du matin, donc il y avait un peu moins de monde du côté de Conflans, mais une belle ambiance pour le match à 13h, et donc ça a mis de suite le tempo sur ce Taraflex. Ça a changé bien sûr totalement du parquet en bois de Piencourt. Et puis ces ballons aussi complètement différents, une marque différente par rapport au championnat. Là aussi très différent, même si le club en avait acheté pour que les joueurs puissent s'entraîner.
Et heureusement d'ailleurs,
heureusement,
j'ai discuté avec un dirigeant qui m'a dit que s'il n'y avait pas eu cette semaine de préparation avec ces nouveaux ballons, ça aurait été très très compliqué.
Alors l'équipe, rappelons-le, était partie le vendredi matin. Donc là aussi tout était il y avait les chambres d'hôtel, les repas, tout était pris en charge par la fédération. Donc les joueurs étaient partis de Mende vendredi matin, ils ont pu s'entraîner le vendredi, justement entre midi et deux dans cette salle le vendredi. Et bon, après il faut tuer le temps vendredi après-midi, le vendredi soir, donc là aussi on peut cogiter. Et puis ce samedi pour arriver tranquillement au niveau de ce match, et donc voilà, tout ça a fait que on a eu quand même, par exemple, je me souviens, dans le premier set, Carlos Anthony qui en réception est vraiment tient la route depuis ce début de saison. Le coach le fait sortir dès ce premier set parce que les ballons partent un peu dans tous les sens. Donc pour dire que même lui, son expérience, sa carrière au pro, tendue pour cette finale. Et donc on pompe ce premier set 25-20, et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça.
Tout à fait, et du coup l'équipe a quand même su réagir tout de suite sur le deuxième set, et fort heureusement, parce que du coup les adversaires avaient pris quand même confiance en eux. Je pense que qu'il fallait tout de suite mettre les choses au clair. Donc un deuxième set gagné, j'allais dire facilement, mais parce que le 25e point est toujours compliqué à mettre. Il y avait 24-18, je crois. Et finalement, ça se finit à 24...
À 25-23, non ?
25-23,
c'est
pardon.
C'est le troisième set où on avait plus d'écart, je crois.
Ah, c'est celui-ci. Mais enfin, bon, toujours est-il que l'équipe s'est bien reprise. Le coach a fait sortir pas que Carlos, il a fait beaucoup tourner dans le match, même en réception.
Le passeur, Boris Takaniko est entré très tôt dans le match. Ouais. Robin Utrel aussi est entré très tôt. Donc, il y a eu des changements vraiment
très tôt. Inhabituels.
Voilà, et surtout d'entrée de match, quoi. C'est ça qui a. Mais bon, il a bien entendu eu raison de le faire. Et ça explique aussi pourquoi on a eu ces ressources physiques pour tenir jusqu'au 5e set, parce que c'est vrai que Conflans avait un banc de touche beaucoup moins étoffé que celui des Mandois.
Très ancien, le banc de touche, c'était...
Oui, il y avait deux joueurs qui avaient plus de 40 ans et ils ne sont pas rentrés, et on comprend pourquoi. C'est vrai que, ils étaient là pour faire le nombre, et parce qu'ils font partie bien sûr du groupe, mais très peu d'espoir de jouer une rencontre d'un tel niveau.
Ça rendait bien la télé, Aurélien, toi qui l'as vu sur Internet ?
Ça rendait bien, oui, tout à fait. Bon, c'était une caméra fixe d'un côté du terrain. Donc, une fois, on voyait les joueurs de dos, d'autres fois, ils étaient de face. Ça rendait très bien, la qualité était bonne. C'est vrai que moi aussi, devant mon écran, j'ai eu peur parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. On en parlait la semaine dernière, Mende était le grand favori. Est-ce que cette étiquette de favori leur a pas un peu pesé sur les épaules, notamment en début de match? Je les ai trouvés assez timorés sur ce premier set, le temps de se mettre en route. Et puis c'est vrai qu'après la fin de match, le 5e set, j'ai eu l'impression que ce tie-break était gagné sur le physique, comme tu disais, Patrick. Vraiment, ils ont réussi à accélérer le tempo au bon moment. Ça a un peu étouffé les joueurs de Conflans qui, j'avais l'impression, qui étaient un peu asphyxiés par rapport au Mandois. Donc, je pense que ça s'est joué pas mal là-dessus, mais on est passé par beaucoup d'émotions et c'est vrai que ça a été plus compliqué que prévu.
Le physique a compté, bien évidemment, mais je pense que c'est surtout aussi le mental. Il faut reconnaître que Constant, qui devait sentir aussi quand même que c'était pas idéal comme c'était parti. Il est resté zen tout le match. Zen, pas un mot plus haut que l'autre, il a pas gesticulé contrairement au coach adverse qui était bouillonnant.
Qui était tout flamant.
Constant, il est resté zen. Et ça, je pense que par rapport aux joueurs, c'est intéressant. Ça leur a permis de relativiser, de se calmer. Ils connaissent leur force. Ils ont joué sur ça et bravo à Constant d'avoir gardé son calme et aux joueurs bien sûr aussi.
Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas vu une image de ce match, mais j'ai quand même une question par rapport au 5e set. Est-ce que pour le MVL, est-ce que c'est l'expérience qui a payé de l'élite?
Ouais, notamment quand c'était serré. Parce que déjà l'expérience, elle a joué déjà bien en amont, parce que dans ce 2e set, bon, on le gagne 25-23, mais il gagne un peu au forceps parce que le score est vraiment serré, les deux équipes se suivent pendant tout le set et donc tu fais un peu la différence juste à la fin. Et bon, c'est sûr qu'à 2-0 contre toi, ben là le match il aurait été complètement plié. Donc déjà tu sens que tu arrives à te remettre dans le coup alors que c'est serré et que tu viens de perdre le premier set. Donc déjà mentalement, ton expérience, tu te remets dans le match. Après, le 3e set, tu déroules au complet parce que, justement, Conflans, je pense, était en sur-régime sur ces deux premiers sets. Donc, le 3e set, tu déroules et tu le gagnes. Et puis là, on pense que, là, franchement, moi, je le dis franchement, après le 3e set, je me suis dit, bon, ben, dans le 4e set, ça va être encore plus une boucherie que dans le 3e. Et malgré ça, Conflans arrive à prendre 6 points d'avance dans ce 4e set. Et mal, donc là, tu te dis, ben, le set, il est pour Conflans. Mais non, parce qu'on revient à égalité. Donc, on inflige, pas un 6-0, mais je crois un 7-1 ou un 8-2 à cette équipe de Conflans, et on revient à égalité. Et là, tu te dis, ben, ça y est, c'est fini. Et non, Conflans remet une couche et réussit, alors que je crois qu'on est à 20-20 ou un truc comme ça, réussit, ou 19-19 ou 18-18. Et donc, Conflans réussit à empocher ce 4e set. Et là, tu te dis, ben, sur la lancée, ben, c'est nous, on est cuit. Mais malgré ça, non. Alors, il y a eu un tie-break, tu parles de ce tie-break, mais un tie-break complètement fou. Parce qu'au début, je crois qu'on mène 4-1. Donc là, 4-1, je me suis dit, ça y est, ben, Conflans a complètement lâché. Mais non, Conflans revient. Et c'est Conflans qui mène 8-6.
Non, mais c'est ça, on menait 6-1. Et on se fait redoubler à 8-6.
Donc on perd 8-6 au tie-break. Et là, heureusement qu'on a une série de services. Et tu parlais du coach Constant. Il y a une décision de Constant qui est fondamentale à ce niveau-là. Il fait rentrer Jonathan Favier.
Au service.
Et donc là, on connaît Jonathan Favier qui a ces petits services flottants qui sont, c'est vrai, qui ont l'air de rien, il faut le reconnaître.
Ah, ils ont l'air pérave. Ouais.
Mais qui ont désintégré la réception adverse. Et donc, on égalise à 10 partout. Et donc là, après, c'est Angelo Teno qui est lui au service à ce moment-là. Et lui aussi, avec ses services flottants, ça
voilà, a plus qu'un très joli contre de Moussa Gueye, voilà, qui est venu exploser l'attaque.
Un contre monumental de Moussa Gueye. Et puis le disque a craqué, puisque pour une dessert, il met une attaque carrément dans le filet. Et donc, voilà, on finit 15-11 alors que tu es 10-10. Et à 10-10, nous, on était sur le banc des journalistes. Et j'avais un collègue de la montagne qui était à côté de moi. Et donc, il me chambrait, il me dit, on t'entend moins. Et bien oui. Et oui, c'est vrai qu'on nous entendait moins parce qu'on ne savait pas trop de quel côté ça allait tourner.
Donc, du coup, moi, je chambrais à 6-1, puisque on peut le dire, Conflans et la banlieue parisienne. Je leur rappelais le score du PSG-Barça. Et puis voilà, j'aurais mieux fait de me taire puisqu'ils nous ont redoublé à 8-6 et bon voilà, on a gagné au final, heureusement.
D'après ce que vous dites, Constant a eu un rôle déterminant pour ce match, que ce soit ses choix en début de match ou en fin de match.
C'est vrai que Constant a managé cette équipe de main de maître, avec plusieurs décisions justement pour des remplacements à des moments clés. Ça a permis aussi à ces joueurs qui étaient un peu tendus de reprendre leur souffle. Bon, c'est vrai qu'on parlait de Carlos Anthony, mais bon, Carlos Anthony par la suite a fait des séries de services impressionnantes où il a
une puissance
de feu incroyable. Et donc c'est vrai que ces joueurs-là après ont fait un passage sur le banc, mais ils se sont repris. Et bon, on parlait d'Angelo Teno qui lui aussi a fait un passage sur le banc, et puis dans le 5e set par ses service, il débloque la victoire. Donc c'est tout un ensemble. Et d'ailleurs, bon, après on a eu la chance avec Laurent de pouvoir aller dans les vestiaires au Mandois, et bon, on a pu discuter avec les joueurs, et beaucoup de joueurs disent bon, Constant c'est un père, il nous couvre, il nous, en particulier bien sûr les plus jeunes. Et bon, on voit quand même toute l'emprise du coach sur cette équipe. Et bon, il a fait des choix aussi sur les années précédentes. Hein. On se souvient qu'il y avait des joueurs de très haut niveau dans cette équipe mandoise. Il les a écartés parce que il n'était pas en phase avec ces joueurs-là sur les objectifs à atteindre, sur toujours aller plus haut, toujours aller plus en voir plus, en donner plus. Et donc il a su faire ça. Il a construit une équipe à son image avec des joueurs qu'il a totalement choisis, avec une mentalité spécifique qui lui colle bien, un mélange de jeunes et de plus anciens. Et donc on se rend compte aussi qu'après les joueurs sont à 4000% avec lui, y compris ceux qui jouent moins.
Ouais, donc moi je voulais rebondir sur ce que dit Patrick. Donc la victoire de ce week-end, elle se dessine pas ces dernières semaines. Le club brille aujourd'hui, mais c'est un travail de plusieurs saisons qui viennent d'être bonifiées. Donc on parle de Constant, mais on peut aussi citer son adjoint David Julien, puisque les joueurs n'ont pas craqué mentalement, mais physiquement non plus.
Bien sûr.
Donc bravo à eux deux, bravo aux dirigeants qui se donnent énormément pour ce club. Je pense donc au président ainsi qu'à Christian et puis bien d'autres, puisque le matin moi j'étais au rassemblement du CAR, il y avait plein de bénévoles que je ne connaissais pas qui étaient là investis. Donc bravo, il y a une récompense pour ces gens, bravo. Mais je voulais aussi quand même dire un mot sur les joueurs, les féliciter parce que ils répondent présents aux exigences de Constant. Il faut savoir que quand même la semaine dernière ils se sont entraînés deux fois par jour. On est quand même des amateurs, donc c'est des personnes qui bossent à côté, donc ils quittaient leur boulot à midi pour venir s'entraîner, taper la balle pendant une heure et demie, repartir au boulot, après le boulot revenir le soir, rebosser. Donc chapeau aux joueurs qui s'investissent. Bon, certains jouent un peu moins. C'est le volleyball, il y a que 6 personnes sur le terrain, mais ils répondent présents, ils s'entraînent tous et correctement, et ça c'est bravo, chapeau aux joueurs qui méritent ce qu'ils ont actuellement. Et ça, je pense que c'était la cerise sur le gâteau. Maintenant, il va falloir attraper le gâteau.
Non, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, il faut se souvenir. Tu parlais de ses dirigeants, bon, Vincent Mouton, qui est à l'origine du club, puis après qui a un peu quitté les instances dirigeantes, hein, et là qui revient. Donc et puis surtout Christian Barthier qui lui a tout connu, et puis Jean-Marie Velay. Il faut se souvenir quand même, il y a pas si longtemps, tu étais en pré-national, donc tu étais au niveau pas zéro, mais c'était le désert. Personne ne savait ce que c'était un ballon de volleyball dans ce département. Et eux, ils étaient là. Donc, tu descendais dans l'Hérault, tu descendais dans le Gard, dans des salles improbables, dans des matchs complètement hallucinants avec un arbitrage. Tout était à ce niveau-là. Et y a des joueurs, en particulier Anthony Velay, qui lui a connu la pré-nationale. Tu as un gars comme Sofiane Cadour qui est arrivé en N3. Donc, ils ont connu cette progression et on discute avec eux. Et Sofiane me disait, mais je ne sais pas si tu te rends compte, mais on n'a pas un week-end de libre. On s'entraîne quasiment tous les jours. On n'a pas un week-end. Bon, Sofiane, en plus, il a des gamins. Mais non, ils sont là. Et bon, il rentre sur quelques points. Il a perdu sa place de titulaire. Il est à 4000%. Il était le plus heureux des hommes après avoir reçu cette médaille. Donc, c'est tout. Et c'est vrai qu'on a connu cette progression, on a accompagné cette progression du MVL, qui d'ailleurs ça s'appelait pas comme ça avant, puisque c'était le
MVB.
Le MVB. Et donc, voilà, il y a une progression qui est à mettre à l'actif de ses dirigeants, de ses joueurs, de tous ses bénévoles, et puis aussi des collectivités, en particulier la mairie. Il faut le dire, il faut quand même. Parfois, je me gêne pas pour mettre un peu des tacles parfois aux collectivités, mais là, il faut reconnaître que la ville de Mende a fait ce qu'il fallait pour accompagner la progression de ce club, le département aussi, la région aussi. Et le résultat est là, et on a vécu une super journée. Bon, je me suis régalé.
C'est la première Coupe de France remportée par le MVL ?
C'est la première Coupe de France, bien sûr.
Ok.
Et alors, du coup, je crois que j'ai lu ça sur le site internet de Conflans, que l'équipe est automatiquement qualifiée pour la Coupe de France professionnelle l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, Patrick. Peut-être qu'on sera professionnel l'année prochaine, mais auquel cas, on est déjà qualifié pour la Coupe de France et Conflans aussi.
Très bien ça. On revient au play-off. Le prochain match du MVL, c'est...
C'est ce samedi.
Ouais.
Réception d'Alès à 20h30. Voilà, une équipe d'Alès qui est en pleine, elle, par contre, des confitures avec pour ses problèmes financiers. Donc,
on en a parlé la semaine
dernière. On va voir dans quel état d'esprit sera Alès samedi.
Alors, j'ai dit exactement la même chose à un des joueurs... que c'était tranquille, puis ils allaient peut-être pas venir. Si il m'a rappelé qu'il y a deux saisons, il y avait une équipe là de
Mérignac
qui savait pas s'ils allaient venir, patati patata, puis ils sont venus, ils nous ont gagné, et en gros ils nous ont fait descendre.
Mais tu fais bien de rappeler cet
épisode.
Tu fais bien
donc il faut se reconcentrer.
Oh, ils nous ont fait descendre en National 2.
En National 2.
Tu fais bien de... c'est vrai, cet épisode là est vraiment à rappeler, puisque ce club de Mérignac, le jour où ils sont venus à Mende, est venu sans entraîneur, puisque l'entraîneur n'était plus payé depuis un certain temps, et donc l'entraîneur avait refusé de faire le déplacement jusqu'à Mende, et donc ils étaient en autogestion, et c'est vrai qu'ils nous ont battu 3-1, et ça nous a précipité en play-down, et après ces fameux play-down, on est descendu à N2.
Mais bon, je pense que quand même Constant, on a pu le lire même dans la presse, va remobiliser les joueurs à partir de demain, puisqu'ils s'entraînent mardi. Et de toute façon, les joueurs en sont conscients, ils savent qu'ils étaient formatés, pas pour la Coupe de France à la base, pour le championnat. Donc les choses vont revenir. Donc je crois que samedi, il y aura quand même une petite cérémonie avant le match pour présenter la Coupe de France aux supporters au public, qui n'ont pas pu venir. Il faudra être présent samedi soir aussi pour venir féliciter tout ce groupe.
Allez, on va rester avec toi, Laurent, parce qu'on va parler d'handball, le MGC qui s'est déplacé chez le leader Saint-Flour. C'était attendu, défaite du MGC 34-24, 17-12 à la mi-temps. Donc tu t'es rendu au match en redescendant de Clermont pour voir cette équipe contre Saint-Flour.
Voilà, c'est ça. Donc je me suis présenté à Saint-Flour samedi soir en espérant d'amener un petit peu de chance dans ma valise, mais ça n'a pas été le cas. L'équipe était diminuée, il manquait quand même Erwan Pot, un des meilleurs buteurs de l'équipe, qui a été remplacé par Jérémy Room sur le côté, donc qui n'est pas du tout son poste, donc il a eu plusieurs opportunités, mais c'est pas évident quand c'est pas ton poste.
On finit un sur 6, Room.
Ouais. Au-delà de ça, on critique quelquefois l'arbitrage. C'est vrai que là, l'arbitre a été très très sévère.
Il n'était pas content, le MGC, hein, qui critique pas souvent.
50e seconde, tu te prends déjà 2 minutes pour quelque chose de banal. Certes, coup franc, mais pas 2 minutes. Donc c'est vrai, tu attaques le match pas super bien, puisque rapidement, au bout de 3 minutes, je crois qu'il y avait déjà 4-0. Donc la messe était déjà dite d'entrée, les joueurs se sont battus comme ils ont pu, avec les moyens qu'ils avaient. Mais bon, c'était la tâche était très difficile face aux leaders. Bon, c'était pas perdu d'avance, mais bon, l'équipe est plutôt prête. Enfin, va se préparer plutôt très sérieusement pour les quatre prochains matchs. Enfin, pour tous les matchs, je veux dire, mais les quatre prochains adversaires. Il y a déjà ce week-end la réception de Fontaine, qui passe par une victoire obligatoire. Donc c'est samedi soir à Mende.
Oui, c'est vrai qu'on le disait les semaines précédentes. Bon, ce match assez flou. Bon, je l'ai écrit moi jeudi dernier dans la Lausanne Nouvelle. C'était mission impossible. Tout le monde en avait bien conscience. Alors après un match, c'est sûr. Dans le sport, on peut assister à tout un tas de choses qui peuvent, tout peut arriver. On l'a très bien connu à tous les niveaux, que ce soit professionnel ou amateur. Mais bon, la défaite assez floue ne change rien à l'objectif initial du MGC qui se concentre sur ces quatre matchs qui arrivent. Et de toute façon, si tu regardes, avant le match de Saint-Flour, tu étais à un point de la huitième place. Hein, et donc aujourd'hui, tu es toujours à un point de la huitième place. Donc cette défaite à Saint-Flour n'a eu aucune conséquence au niveau de classement, et c'est le plus important. Et donc maintenant, tout va se jouer hors de ces quatre matchs, et en particulier contre Fontaine. Et après, ça va s'enchaîner Saint-Génis, Voiron, et après Voinvelin. Donc si tu pouvais en gagner 3 sur 4, on va être un peu gourmand, les deux à domicile et faire un coup à l'extérieur, ben avec 3 victoires de plus, on se revoit dans 4 semaines et je pense que l'avenir peut être dégagé. L'avenir peut être dégagé.
C'est ça, c'est qu'il va falloir aller faire un coup à l'extérieur. Et oui. Il va falloir aller chercher cette fameuse victoire à l'extérieur qui là va être hyper importante, encore plus que d'habitude. Je pense qu'il va être hyper importante dans la course à la descente.
Donc à l'extérieur, ça sera Saint-Génis-Laval et à Voinvelin.
Non, à Voiron.
À Voiron ?
Ouais.
Non, ils y sont déjà allés à Voiron.
Je crois pas.
Voinvelin, c'est le.
Julien,
c'était la réception. On les avait éclatés là, il n'y a pas longtemps.
Non, c'était Montluçon, je crois qu'on avait.
Ah, c'était Montluçon ?
Ouais.
Ouais, c'était Montluçon là.
Donc, c'est ça.
Ah oui, c'est vrai. D'accord.
On reçoit Fontaine, on va deux fois à l'extérieur, c'est-à-dire à Saint-Génis et à Voiron, et après on reçoit Voinvelin.
Ok, ouais, voilà, de toute façon, on s'y attendait, cette défaite. Maintenant, il va falloir gagner ces quatre matchs, on n'est toujours pas décroché. La réserve garçon perd à Narbonne 27-21 avec un effectif limité. On passe du côté de Nord-Lozère avec l'équipe senior départementale fille qui affrontait Brioude pour sa deuxième phase poule basse, une victoire 26-21. Les garçons se rendaient à Aurillac pour affronter le HCV, une réserve de N3, et se rattrapent de leur dernier match en gagnant 30-22. Enfin, l'équipe senior fille régionale se rendait chez la Lanterne Rouge Ghana et repart avec une victoire 29-8. Sachant que la défaite d'Issingeaux contre le leader Pérignat leur assure pratiquement la deuxième place qui sera signe d'accession pour cette équipe qui était seulement promue en début de saison. Bilan pour l'instant, 10 victoires, 2 défaites, meilleure attaque, meilleure défense. Bravo à ces filles de
mérité pour ce club et son coach à qui on passe le bonjour, Florent.
Voilà. En rugby, le RCML 100, on en a pas mal parlé aussi la semaine dernière, hein, qui recevait Lunel. Attention, match importantissime. Eh bien, le RCML gagne 18-12, deux essais d'André de Boursier, une pénalité de Tichit, une pénalité 80e et une transformation de Vessade. Belle opération. Le classement, alors j'ai un peu peur d'avoir un faux classement.
Non, mais donc, Julien est là.
Je vais demander à Julien.
Je suis là pour le classement. Je vais partir du premier, même si on sait que c'est Plage d'Orbe, donc avec 75 points. Deuxième, il y a Sigean, 63. Troisième, Lunel, 54. Bédarieux, quatrième, 48. Pixalou, cinquième, 45 points. Et le RCML est sixième avec 40 points. Et devant Villeneuve-les-Maglones, 38 points, qui est le dernier adversaire de cette phase régulière de championnat. Donc dimanche, à 15h, Mende, Villeneuve-les-Maglones.
Voilà. Et là, vous pouvez remercier Julien. Parce que c'était archifaux sur
c'était
nos
pas papiers. Pareil. Donc tu es en train de me dire qu'on est à 14 points de cette équipe de Lunel qu'on vient d'éclater.
Oui.
C'est ça.
Et donc comme l'a fort justement bien dit Julien, dernier match donc de cette phase de poule dimanche contre Villeneuve et Maglone. Donc attention parce que c'est la sixième place qui est en jeu puisque si Villeneuve vient créer la surprise au chapitre. Ils vont nous doubler et donc on terminerait que septième. Et donc en terminant septième, on prendrait le deuxième en play-off. Donc Sigean qui est attention une grosse équipe. Donc il vaut mieux finir sixième puisque là on prendrait Lunel Donc certes à Lunel, mais bon, on les a quand même battus là 18-12.
Psychologiquement,
ouais, on aurait un avantage psychologique. Ouais.
Mathématiquement, on peut encore finir cinquième, mais il faudrait qu'on gagne avec le bonus offensif.
Ouais. Et que Pixelou marque au ouais.
Voilà, et donc, d'après ce que j'ai vu, il joue à Tosh Corbière, qui est largement dernier de cette poule. Ouais, oh, déjà, c'est possible en rugby, mais bon, ça, la cinquième place paraît.
Déjà se concentrer sur voilà. La victoire pour
en tout cas, on est
la
sûr,
sixième place. Et...
En tout cas, on est sûr de faire le match de barrage à l'extérieur.
Voilà, la qualification est acquise. Maintenant, oui. C'est, ce qui reste à déterminer, c'est la place et le futur adversaire du RCM.
Concernant, puisqu'on a constaté que les matchs à l'extérieur étaient très très compliqués pour notre équipe de rugby.
Sans un seul match.
Oui.
Ah ouais.
Donc ça veut dire que si on perd à Lunel, admettons on finit sixième, on joue Lunel, si tu perds à Lunel, ben c'est fini. Terminé.
Ah ouais.
Ton championnat est terminé.
Ok, étrange.
Ta saison.
Oui, parce que je pense pas qu'il y ait de match de coupe après, donc a priori ta saison est terminée.
Ok, on va y faire attention. On passe au football, CFA2, la FL perd à Limonest 1-0. Un but pris en fin de match, il me semble.
84e minute, ouais.
Voilà. Parce que tu as calculé le nombre de points qu'on a perdu dans le dernier quart d'heure.
Il faudrait le rajouter. Là,
tu peux en rajouter un de plus.
On peut rajouter un point sur les statistiques qu'on avait déjà sorties une fois, mais c'est vrai que ça fait encore un but pris dans les 10 dernières minutes. Et bon, c'est dommage parce que s'il y avait eu un résultat, ne serait-ce qu'un match nul qui
paraissait
d'après,
mérité,
oui, d'après les échos, paraissait mérité, ça aurait permis de rester encore à peu près accroché. Mais bon, là.
Devant
il y a eu des victoires. Ah, le classement, je le dis aussi. Alors donc premier Saint-Priest avec 36 points, deuxième Bourgoin-Jallieu 34 points, troisième Louhans-Cuiseaux 31 points, quatrième donc Limonest, l'adversaire du week-end, 30 points, Aurillac et la réserve de Saint-Étienne sont à égalité à 29 points, Bastia, prochain adversaire de l'AFL ce samedi, 28 points, et donc l'AFL 27.
Ah, il était bon mon classement.
Alors disons samedi à 17h.
Samedi à 17h.
Horaire inhabituel pour, par rapport aux avions de l'équipe corse. Donc samedi, il y a eu un samedi de feu, puisque 17h le foot et 20h30
le hand
et le volley en même temps. Donc
samedi soir, on peut gagner une place.
Et le dimanche, le rugby à 15h. Donc les 4 sports collectifs mandois jouent à domicile ce week-end.
Voilà, donc ouais, dommage de cette place, mais on est encore bien, 27 points, ça va, on est à 7 points du deuxième. Hein.
Et puis surtout, c'est surtout le mois de mars très important pour la FL, puisque là, ils ont joué contre Limonest, qui était à égalité de points avec Mende avant cette rencontre. Là, le week-end prochain, ils vont jouer Bastia, et ensuite, ils vont jouer Clermont, donc deux équipes aussi qui sont coude à coude avec Mende. Donc c'est vrai que, suivant les résultats de ces matchs, le mois de mars est hyper important, et peut te faire basculer vers le haut, vers le bas du tableau.
C'est ça. Oui, ouais,
j'ai juste un petit mot à faire passer, même si je pense que la CFA2 aura la priorité sur ce match-là, mais les U15, U15 promotion
de la Ligue,
qui sont passés certes ce week-end en Coupe de la Ligue, donc qui ont fait un véritable exploit en allant s'imposer à Béziers 1-0 en quart de finale de la Coupe de la Ligue.
Béziers qui joue deux divisions
au-dessus, qui est en 15 ans excellence. Donc les voilà qualifiés pour les demi-finales. Et si je parle de samedi, c'est parce qu'ils jouent un match très important pour le reste de leur saison, puisqu'ils affrontent Beaucaire, qui est premier avec 3 points d'avance, qui gagne tout. Donc Mende a tout gagné avec une seule défaite, malheureusement, contre Beaucaire. Mais si Mende gagne ce week-end contre Beaucaire, Mende sera premier. Et par rapport au goal average qui est meilleur, le goal average général de la FL est meilleur. Donc un gros match à 17h donc au Cos Doge contre Beaucaire, même si la concurrence de la CFA de risque
en
d'être
même
rude.
Temps ouais. Ah, tiens.
Voilà, le mot est passé pour cette équipe qui réalise vraiment une super saison.
Alors les féminines qui paraît-il nous écoutent, Aurélien. Dis-nous
exactement. J'ai eu des échos cette semaine comme quoi les féminines du football étaient de ferventes auditrices de notre émission. Donc d'abord on les remercie. J'avais dit que je leur ferais une petite dédicace, un petit coucou. Et donc voilà, pour parler de leurs résultats de ce week-end. Donc les féminines ont gagné ce week-end. Donc victoire de l'entente Cœur Lozère à Chirac en Coupe de Lozère 2-0. Donc les filles de Vladimir Petkovic s'imposent logiquement mais sans briller avec un but de Vanessa Verrier et de Karima Melizi. Et la réserve, quant à elle, est allée s'incliner contre une superbe équipe d'Aumont qui est leader dans le championnat de Lozère. Elles ont perdu 4-1. Voilà,
qualifié pour les demi-finales.
Donc la première, l'équipe 1 est qualifiée pour les demi-finales de la coupe, c'est ça.
Et ça serait bien qu'on ait une ou deux féminines qui viennent parler la semaine prochaine. T'es pas là la semaine prochaine ?
Non.
Parfait. donc n'hésitez pas à nous contacter, ou Aurélien, ou
mais
moi,
elle joue pas,
ou Laurent.
Elles jouent pas ce week-end dans leur
c'est
championnat.
C'est pas grave. C'est pas grave, d'accord. On les invite à venir parler de leur sport, de leur équipe.
Voilà. Excellente idée.
Voilà. C'était l'occasion de leur passer un petit bonjour.
Tu as très bien fait. Alors, la réserve de l'AFL perd à Sommières 2-1 avec un but d'Adani. Alors, Julien, que s'est-il passé pendant ce match ? Mais vous arrêtez plus de perdre, là. Ça y est, ça craque. C'est le moral. Non, c'est le mental.
2007 compliqué à l'extérieur. C'est vrai que
jusqu'à un perdu, donc c'est bon.
Oui, quelque part, on va se dire ça. Jusqu'à un perdu 3-0 à la maison contre Vergès.
Et c'est plus
ça privé, a fait 0-0 contre Générac. Donc, bon, dans notre malheur, on va dire qu'on s'en sort pas trop mal. Mais hier à Sommières, on est tombé sur une bonne équipe de Sommières qui n'est pas du tout à sa place dans ce championnat. Première mi-temps où je pense quand même qu'on était au-dessus sans non plus être génial. Je pense qu'on était au-dessus de cette équipe de Sommières. Ouais, ça continue, je suis pas respecté. Je continue. Et donc oui, on ouvre le score par Momo Adani assez logiquement. On a aussi touché la barre dans cette première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, assez inexplicablement, on s'est complètement arrêté de jouer. Sommières
il rit tout seul de ses blagues, Laurent. Il en a d'autres encore, mais il en a plein dans sa tête.
C'est pas. Sommières a commencé un petit peu à se réveiller, à nous mettre en difficulté. Il marque un but de 40 mètres, là, une reprise de volée de leur défenseur central. Qui lobe malheureusement Jordan, le ballon qui retombe sous la barre. Là, je pense qu'il peut la tenter 10 fois, il la réussira une fois.
Un but à la Laurent Julien.
je dirais plutôt à Memphis, de
Lyon. Sauf que là, c'était vraiment une reprise de volée, quoi. C'était pas un lob avec un ballon à terre, et donc un partout. Et puis un dernier quart d'heure un peu bizarre où il n'y a pas franchement eu d'occasion des deux côtés. Et puis sur un contre à la 90e minute. Alors Elie qui déborde, il trouve l'attaquant dans la surface et au lieu de tirer, il voit l'ailier de l'autre côté seul au deuxième poteau, qui a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Donc voilà, une défaite de 1, donc c'est sûr que ça devient un petit peu compliqué, toutes ces défaites là à l'extérieur.
Enfin, je suis clan, ils doivent être dégoûtés là, hein, quand même, d'avoir pris 3-0 sur leur terrain.
Ouais, ils auraient pu faire une sacrée opération, mais bon, nous, voilà. Dans
mais au niveau du classement là, parce qu'on a.
Bah, au niveau du.
Combien d'avance,
niveau du classement, on est leader avec 55 points, et à Saint-Privat, qui est deuxième avec 49 points, et troisième, je suis clan 46, qui a un match en moins.
Donc 6 points d'avance, vous avez quand même. Votre destin.
Oui, c'est sûr, mais bon, quand on sait qu'il y a quelques temps de ça, on avait 12-13 points d'avance.
Non, mais c'est sûr que l'équipe 2 marque le pas, oui. On est obligé de le dire, par rapport à ce début de saison où il y a eu combien, 8, 9 ou 10 victoires consécutives. Bon, c'était logique aussi, tu pouvais pas continuer une saison entière avec une telle cadence. Bon, après, il faut s'accrocher, gagner à domicile. Ce week-end, tu reçois contre
Nîmes-la-Salien.
Il faut voilà, tenir le choc à domicile et tu pourras après brandir ce titre de champion de PHA.
Quand est-ce qu'a lieu le match ce week-end?
Dimanche à 15h. À Roufiac.
Ouais. À Roufiac. Ouais. Ok, c'est noté. Marvejol revient de la Clermontaise avec un bon match nul, un but partout, but de Fall. Marvejol qui est avec un match de moins, cinquième du classement.
Un match de moins, c'est ce fameux match contre Rousson.
Ouais.
Et d'ailleurs, Marvejol a fait appel, mais Marvejol a à nouveau perdu un appel.
Ah, ils ont perdu en appel.
Oui, donc
il n'y a plus de match en moins, quoi.
Il y a encore des recours possibles. Je ne sais pas ce que va faire Marvejol. Mais en tout cas, la décision a été confirmée en appel. Alors c'est là que c'est totalement hallucinant, puisque on sait très bien que la réserve de l'AFL était dans la même situation, puisque c'était le même jour, le même week-end.
Sauf que ce n'est pas les mêmes instances.
Voilà, ce n'est pas les mêmes instances. Et le district Garloser a totalement entendu les explications de l'AFL, puisque le match a été à rejouer, c'est le fameux match que vous avez joué contre Vauvert
la semaine dernière sous la neige.
La semaine dernière. Donc le district a très bien compris la situation et donc n'a pas donné match perdu à l'AFL, mais a donné le match à rejouer, ce qui paraissait logique. Et la Ligue, le même jour, des villes du même département, bon, a confirmé la décision et donc Marvejol a à nouveau match perdu. Alors je ne sais pas ce que les dirigeants vont faire, mais. C'est vrai que ça paraît complètement hallucinant.
Voilà, il n'y a plus qu'à laisser tomber. Hein. maintenant, ça sert à rien. Quoi.
Ouais.
On voit la logique des instances une fois voilà. de plus.
Oui, voilà. Puis j'en avais déjà dit un mot dans cette émission, il me semble, mais les féminines de l'AFL, donc qui jouent également en Ligue, n'avaient pas pu descendre, mais elles vont quand même pouvoir rejouer leur match, où il a été joué, je sais plus, mais leur match en tout cas n'avait pas été annulé. Alors que là aussi, c'est la Ligue qui gère. Quoi.
Demande à Aurélien, si tu ne sais pas, c'est le nouveau spécialiste de sport féminin. Je peux te dire.
Je te dirai ça, je vais me renseigner.
Le Buisson gagne 3-2, redescend. Le NL, aïe aïe aïe, le NL qui perd 3-0 à domicile contre Cournon. Le NL qui est malin au classement, avant-dernier.
Ouais, ça va être compliqué. Hein.
Ça va vraiment être compliqué. Langogne qui va gagner à QC 2-1. Et Badarou qui perd 3-0 à Galician. Badarou qui est mal aussi. Hein.
Attention Badarou. Après ce début de saison, Tony Truant et ce parcours en Coupe de France, il y a un enchaînement de défaites avec des scores lourds, sévères. Donc là, ils sont avant-dernier avec un match en retard. Mais attention.
Oui, alors en effet, j'ai pu discuter avec le coach qui déplore une dizaine d'absents tous les week-ends.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et donc des absents pour diverses raisons. Hein. On a les blessés, les suspendus et les dépressifs. Donc, je leur souhaite quand même de se retrousser les manches à tous, aux joueurs de se remobiliser et de se sauver. C'est important pour le club de rester un PHEB.
Il y en a combien qui descendent? 3 aussi?
Deux. Au moins 2, et après ça dépend des divisions au-dessus.
Ouais.
Mais je pense qu'il y en a au moins 2 qui descendent. Ouais.
Bon, on va suivre ça avec attention. Ok, merci les gars, on fait une pause musicale. On a beaucoup d'actualités nationales, internationales, le foot, rugby, Ligue des Champions et handball aussi, tiens. Allez, après, The Do. Allez, on est revenu pour cette page nationale, internationale. On va commencer par quoi ? Tiens, par le rugby. Tournoi destination, ça y est, succès bonifié du 15 de France en Italie, 40-18. C'est l'Angleterre qui remporte le tournoi, ce tournoi destination. Allez, tiens, Aurélien, on va commencer par toi. Quels enseignements tirer de ce tournoi pour l'équipe de France ?
Mais du match tout d'abord, du match contre l'Italie.
Le match rapide, hein, parce que.
Ouais. Sur le match, pas beaucoup d'enseignements à tirer, parce que contre une équipe d'Italie très faible, effectivement, le minimum syndical c'était de gagner, avec si possible le bonus. Donc le job a été fait et
c'est. Qui n'a pas toujours été le cas les années précédentes.
Ouais, et c'est là l'essentiel effectivement. Voilà, maintenant il reste un match, c'est le week-end prochain contre avec la réception du pays de Galles. Et c'est ce match-là qui va décider du bilan de ton tournoi, puisque
on peut pas tirer un premier bilan quand même.
Tu peux pas tirer un premier bilan parce que si tu gagnes ce prochain match, tu auras fait un tournoi réussi. Si tu le perds, tu auras fait un tournoi raté.
Tournoi réussi, c'est quand tu le gagnes.
C'était l'objectif. Ouais, pas pour cette année en tout cas. C'était pas possible de le gagner. Donc
deuxième, si tu.
On n'est pas d'accord là,
c'est ça. Deuxième.
Oui. Si tu bats le pays de Galles, tu peux finir deuxième.
Tu peux finir deuxième, c'est pas sûr. Ça dépend aussi
des résultats. C'est qui l'équipe qui s'est pris une dérouillée là contre les Anglais, là,
l'Écosse.
L'Écosse.
61.
On les avait battus.
61.
On les avait battus difficilement.
Oui. Au Parc au Stade de France.
Et oui, donc l'objectif affiché de la Fédé avant ce tournoi, c'était de gagner les deux matchs à domicile, de gagner tous les matchs à domicile plus la victoire en Italie. Donc pour l'instant, on a gagné à domicile contre l'Écosse, on est allé gagner en Italie. Donc il faut gagner le prochain match contre le pays de Galles pour atteindre les objectifs de la fédération et faire un tournoi réussi, ce qui sera pas chose aisée parce que je sais pas si vous avez pu regarder le match vendredi soir entre du pays de Galles, c'est quand même assez costaud et ça va très vite.
Voyons.
Marseille-Angers.
T'es d'accord, on attend le dernier match où on peut quand même tirer un petit bilan là, Patrick ?
Non, c'est vrai qu'on faut attendre ce dernier match, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il y en a un peu quand même, hein, il faut le reconnaître, mais ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Après, moi, j'ai fait toujours le même constat. Il manque quand même des joueurs de talent dans cette équipe. Et donc, c'est compliqué de pouvoir rivaliser après avec les grosses nations du rugby.
Allez, on est d'accord. Messieurs, Julien, Laurent, vous voulez dire un mot sur le rugby ou ça? Non.
Non, c'est bon.
C'est bon. Si. Ok. Allez, on va parler de quoi.
J'ai une petite info, pas sur le tournoi, sur le top 14. Puisque ce matin est tombée une nouvelle d'un projet de fusion entre le Stade Français et le Racing 92. Wow. Donc il y a un communiqué qui est tombé ce matin et apparemment il y a une conférence de presse cet après-midi des deux présidents pour annoncer la nouvelle. Donc ils voudraient fusionner, les deux équipes parisiennes voudraient fusionner pour n'en faire qu'une dès la saison prochaine.
Ça serait pas mal, ça ferait
pour faire une grosse équipe capable de rivaliser au niveau européen.
Ouais, en parlant de rugby, on peut aussi signaler la belle perf de Montpellier qui est allé gagner à Clermont, ce qui n'est pas chose aisée, Clermont sur ses terres.
Oui.
Et avec la manière.
Et ça faisait un moment qu'on attendait le rapprochement entre Bayonne et Biarritz, et finalement il vient du côté de Paris, quoi.
C'est vrai que cette information est totalement surprenante parce que c'est deux clubs avec deux philosophies complètement différentes. Certes, avec maintenant deux présidents qui sont parmi les plus fortunés de France, en particulier celui du Stade Français. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le président du Stade Français, c'est lui qui a la surface financière personnelle la plus importante. Donc c'est vrai que ça ferait un club vraiment encore plus riche avec ce nouveau stade qui est construit du côté du Racing. Bon, à vérifier, mais c'est vrai que ça paraît compliqué parce que c'était deux clubs qui étaient dans des stratégies totalement différentes.
Ouais. Et puis tu parlais du cas.
C'est quoi le but alors de s'associer ?
Tu parlais du cas basque, c'est un petit peu différent justement. Là, les deux clubs du Pays Basque voulaient fusionner vraiment. C'était une question un petit peu de survie pour le rugby, puisque on voit que Biarritz s'est descendu en Pro D2 et là l'aviron bayonnais
est 80 points à Toulon.
Et dernier du top 14, donc c'était vraiment une question de survie. Là, c'est vraiment pour créer un club encore plus fort et avec des moyens financiers beaucoup plus important et pouvoir rivaliser, acheter de nombreuses stars et pouvoir rivaliser vraiment
et
au niveau européen.
Et acheter encore plus de cocaïne ou comment ça se passe là? C'est quoi ce sport, le rugby professionnel?
Ouais, comment ils vont faire avec leur... Parce que là, ils ont deux équipes, du coup, s'ils fusionnent...
Les contrats sont conservés jusqu'à leur terme. Et puis après, il y aura forcément des joueurs qui vont être incités à partir, hein, ou qui seront mis au placard et qui joueront pas. Mmh. Et donc, mais c'est vrai que ça si les deux clubs fusionnent, ça va faire une machine de guerre. Mais
apparemment, les premiers retours des joueurs ne sont pas très bons, apparemment. Et je sais pas si... Comment ça va se passer?
Qu'ils vont perdre leur emploi.
Je sais pas comment ça va se passer au final, mais les premiers retours sont pas très positifs. Donc... Oui.
Et puis au niveau du championnat aussi, ça ferait ça ferait une place en plus à libérer en top 14. Donc savoir si c'est l'avant-dernier qui est actuellement qui serait sauvé ou
si c'est une montée
montée de Pro D2 ou faire un match de barrage entre l'avant-dernier et le top 14.
Ils sauveraient Bayonne.
Non, parce que Bayonne est dernier.
Bayonne est dernier, descendrait.
C'est Grenoble qui est avant-dernier.
À suivre, handball, Ligue des Champions, Montpellier et alors Zaporizhzhia, c'est ça, hein, dos à dos, 29-29, donc vainqueur à l'aller, le MHB a assuré le nul au retour, il jouera Kielce en huitième de finale, grosse équipe de Kielce. Paris était qualifié aussi.
C'est
Pologne.
Ils étaient qualifiés Paris, mais ils ont mis une sacrée rouste à Kiel, 42-24 il me semble, donc...
Un club historique, ouais. Très allemand. Fort, allemand.
Battre Kiel de pratiquement 20 buts, même si les deux équipes étaient déjà qualifiées, je pense que ça n'a pas dû leur arriver souvent dans leur histoire aux Allemands.
Et Fabregas de Montpellier vient d'annoncer qu'il signait l'an prochain au Barça.
Au Barça.
Et ouais.
Et Guigou continue l'aventure en équipe de France.
Ça, c'est une bonne chose. De toute façon, Guigou, il peut continuer encore 10 ans, ça ne changera rien. La Ligue 1, qu'est-ce qu'on pourrait dire de... Il n'y a rien eu cette journée en Ligue 1. Rien d'intéressant, par le 4-0 de Lyon.
Non, il y a eu ce but, c'est vrai, un magnifique de Memphis, là, ouais. Du rond central, de la ligne médiane. Bon, après...
Si, une éclatante victoire de l'OM, quand même.
Ça y est.
Il y a eu quand même
fioriture.
Un temps incertain, voire même encore plus incertain, Aurier, qui, avant qu'il s'habille seulement de touche. Non, mais là, j'avoue quand même que c'était fabuleux. C'était fabuleux à voir. Bon, tu vas rentrer, oui, tant qu'il enlève le bonnet, le survêt, qu'il mette des protèges, les chaussettes, le short. Bon,
en fait, il avait pas envie.
Il avait pas envie de jouer.
Mais il a mis plus de temps à se changer que ce que Barcelone a mis 3 buts au PSG mercredi dernier, quoi.
Exactement, c'est vrai.
Ouais,
il a mis 8 minutes 30.
C'est peut-être qu'il aurait dû faire la semaine dernière au Camp Nou, finalement.
On est d'accord, ils sont quand même un peu fait enfler, Paris, à Barcelone.
Complètement.
Il y a eu des décisions, c'est vrai. Tendancieuse, hein, de l'arbitre, en particulier ce dernier pénalty qui est vraiment hyper sévère. Hein,
même celui d'avant, hein, où Meunier il tombe, l'autre il trébuche dessus, Di Maria
qui se fait sécher aussi. Bon.
Oui, et Piqué qui sèche Cavani aussi comme il faut.
Deuxième jaune.
Ouais. Bon. C'est sûr que bon, même si l'arbitre a eu des décisions qui sont très limites, même, t'as pas le droit de t'effondrer et de prendre 6 buts, c'est sûr que c'est interdit. Mais moi, je pense que quand Neymar met le 4e but, même lui, il ne célèbre pas. Personne ne célèbre dans le stade. Et puis, par contre, quand ils ont mis le 5e, j'ai dit ils vont prendre le 6e. C'est sûr, c'est écrit. Quoi.
C'était écrit, oui.
À 92e, tu prends le 5e. Et puis, bon, après, tout s'enflamme. Et voilà. Et puis, l'arbitre, je pense aussi, il a dû se dire tiens, je peux être acteur d'un truc incroyable si je me faisais remarquer.
J'ai eu l'impression aussi.
Pour qu'on se rappelle de moi. Mais après, bon, voilà. Et puis, tu prends des buts à des moments qui te font mal. Tu prends un but après 3 minutes. T'en prends un juste avant la mi-temps.
Moi, je l'ai vu en clair sur Canal Plus.
T'en prends un juste avant la mi-temps. T'en prends un retour des vestiaires. Psychologiquement, à chaque fois, c'est sûr que ça te fait mal, mais en plus, ce qu'ils font finalement, c'est presque une. Leur terme, là, la remontada, c'est presque une double remontada qu'ils font, parce que à 3-1, tout le monde les voit éliminés, il y a des gens qui commencent à quitter le stade et tout. Emery, il saute dans les bras de tous ses adjoints à 3-1, c'est bon, on est qualifié. Et puis finalement, tu prends 3 buts en 8 minutes, et Paris voulait rentrer dans l'histoire, ils l'ont fait.
Non, mais c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a une tactique début de match qui m'a paru complètement hallucinante de jouer dans les 20 ou 25 derniers mètres, c'est-à-dire que Cavani était quasiment placé en principe là où ton milieu défensif, ta sentinelle doit être positionné. Et donc après, il y a eu des défaillances individuelles totalement dramatiques. Bon, tu as ce gardien allemand, il faudrait qu'on m'explique comment, quand tu t'appelles Paris Saint-Germain, tu peux recruter un tel gardien que personne ne connaissait et qui aurait dû rester un obscur gardien du championnat allemand. Donc, il se retrouve bombardé leader d'un club qui veut gagner la Ligue des Champions Après, il y a Marquinhos, on a fait tout un plat, Marquinhos par-ci, Marquinhos par-là.
Tu parles du gardien, Patrick, mais c'est quand même lui qui a touché le plus de ballons côté parisien.
Oui, c'est vrai.
Et de passes réussies, hein,
oui,
en plus de ça.
Oui, mais je crois qu'ils ont compté les six fois où il est allé chercher dans le but. Bon. Non, mais il y a Marquinhos aussi. Bon, moi,
je suis d'accord pour Marquinhos.
On incense ce joueur. Bon, Marquinhos ci, Marquinhos ça, voilà. Bon, il a fait un match. Moi, pour moi, il coûte 3 buts. Au minimum, il coûte 3 buts. Et puis après, on peut tous les prendre, Lucas, mais le match de Lucas, mais je me souviens qu'ils ont recruté Lucas, c'était un mercato hivernal, mais ils te présentent Lucas comme le nouveau Neymar. Ben, Neymar, il joue en face, et ben, si tu m'expliques qu'on peut mettre Lucas au même niveau que Neymar, mais là aussi, faudra que les recruteurs du Paris Saint-Germain m'expliquent où ils ont détecté une pointe de Neymar dans Lucas. Et après, bon, on peut en citer d'autres, mais bon, moi, c'est trois joueurs.
Tu peux tous les citer sur ce match-là.
Ces trois joueurs m'ont fait rêver. Bon,
Verratti était bourré de la veille avec Matuidi.
Ouais, non, mais bon.
Sans sortir en boîte de nuit, t'as vu la formation?
Non.
La veille,
jusqu'à... Ah, ouais, ils étaient à Jonquera, ils se sont arrêtés, là, tranquillou.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est grave. C'est grave parce que, bon, il y a un club aux moyens illimités, qui a mis 63 millions d'euros pour Di Maria. Et tu te fais éliminer alors que tu gagnes 4-0, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Bon, Al-Khelaïfi, il est cuit, ils vont le changer. Mais il va y avoir d'autres choses encore. Et attention, ils sont capables du jour au lendemain de dire, ben, on s'en va. Oui. C'est-à-dire, on rentre au Qatar ou on repart sur un autre club, dans un autre pays.
Dans le sud ça ne les
gênera absolument pas. Et après, on va rigoler si ça arrive. Un PSG sans le Qatar. Parce que là, ça va revenir avec les Rolando, avec les Rod Fanny, ça sera plus pareil, ça sera plus la même musique.
Macourt, il va pouvoir acheter des joueurs comme ça. Enfin, pas des titulaires, mais pour acheter des remplaçants de Paris, Macourt, à ce moment-là. Genre Ben Arfa ou des mecs comme ça.
Bah, Rolando qui joue aussi bien que le stopper que parlait Patrick tout à l'heure. Hein.
Non, n'exagère pas.
Rolando, c'est aussi bon que Marquinhos. Hein.
Bon, concentre-toi, Laurent. N'oublie pas que tu as 0 point au pronostic et que nous allons pronostiquer un match compliqué. Compliqué à pronostiquer. Monaco-Manchester City. 5-3 à l'aller, retour à Monaco, 2 buts d'écart qualifierait Monaco, un petit 2-0, un 3-1, voire un 4-2. La question, est-ce qu'ils vont encore réussir à marquer autant de buts et surtout, est-ce qu'ils vont réussir à pas en prendre autant Patrick.
Je commence ?
Oui, tu commences. Bon. Le champion. Hein.
Ah ouais, merci. 3-1 pour Monaco.
Allez, qualification. Aurélien.
Moi, je vais dire 3-2 pour Monaco. Et malheureusement, il ne passe pas.
Ok. Julien.
Je vais dire 4-2 pour Monaco. Vu le match aller, on peut s'autoriser un match retour aussi fou.
Ouais. Ah, ils avaient une défense catastrophique quand
même. Ouais, mercredi, ils récupèrent Jamerson.
Un plus Subasic qui était pas dans le coup.
Bah, Jamerson, c'est mieux que Raggi, hein. Quand même, dans l'axe de la défense.
Oui, mais il jouera à Raggi, puisque Glick est
disponible. Ouais, bon, Jamerson, c'est quand même un peu mieux. Mais bon, c'est vrai que Glick va manquer. En espérant que Subasic ne fasse pas de boulettes, puisqu'il a l'air abonné à ça en ce moment. Donc, on verra tout ça. 4-2.
Allez, ok. Laurent.
Pour moi, ça sera 2-1 pour Monaco.
D'accord.
Parce qu'on a parlé pendant une heure d'expérience de haut niveau. Et à Manchester City, ben voilà, il y a un coach qui a beaucoup d'expérience et des joueurs qui ont beaucoup d'expérience.
Okay.
Beaucoup plus qu'à Monaco.
Alors, comme tu
mais peux... j'aimerais que Monaco se qualifie quand même.
Mais demain, il se qualifie.
C'est quelle
pas.
Intuition.
Oui, mais j'aimerais qu'il se qualifie. Par message. Mais voilà.
Quelle intuition tu auras par message.
Ça, tu vois, c'est le pif, ça.
Mais non, mais c'est dans 2 jours, donc son intuition est déjà.
C'est quand le match se rapproche.
Ouais.
Alors, comme
et surtout les compositions aussi. L'équipe.
Non, parce que tu l'avais dit 2 jours avant, on n'avait pas les compos encore hein, de Paris.
La veille, mardi.
La veille, c'était. Ok, bon, mais comme tu te plantes toujours d'un but en ce moment, je veux dire un 2-2, vu que tu as dit 3-1.
Non, je pense que tu aurais pu dire 2-0.
Non, 2-2, c'est bien. Ils marquent des buts, mais ils en prennent, Monaco. Hein. Ils en prennent trop.
Ouais, pour vous, ça ferait 0 club français en quart de finale. Ça ferait mal aux dents, quand même.
Exactement.
Ça ferait mal aux dents, mais on a le niveau qu'on mérite aussi.
Est-ce que le retour de la Roma à Lyon, c'est cette semaine
aussi? Oui, c'est jeudi.
Ah, ben, on va parier aussi. Tiens, allez.
Il y avait eu à l'aller combien?
4-2 pour Lyon, avec une grosse seconde mi-temps. J'ai vu la première, j'ai arrêté, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre de voir les...
3 buts magnifiques de bon. Lyon.
Surtout de la Casette.
Très grosse deuxième mi-temps de Lyon.
Ouais.
Allez, bah, on va commencer par moi, je vais dire un but partout, Lyon qualifié. Voilà, pour qualifier un club quand même. Laurent.
1-0 pour la Roma, donc Lyon qualifié.
2-1 pour la Roma.
Donc Lyon qualifié.
Je vais dire 2-1 pour la Roma aussi.
Ok.
2-2.
2-2. Bon, mais c'est bien,
plus,
ça.
Plus, plus d'optimisme, Lyon, plus d'optimisme sur Lyon, ouais.
Ok, parfait les gars, merci. Donc, dans 2 semaines, hein, Patrick, hein.
Oui, dans 2 semaines, je suis en vacances la semaine prochaine.
C'est bien. Les gars, la semaine prochaine, avec les féminines de l'AFL.
T'as mis, sur ça. Okay.
Allez, c'est parti. Ciao les gars, merci. Bye. Ciao.
Au revoir.
Bye bye.
Leslie John au couloir numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.